journal, c'est vous, Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est joué, de ressentiment. Les mots d'Emmanuel Macron après le rejet de sa candidate à la Commission européenne. Sylvie Goulard, retoquée par les eurodéputés. Véritable claque pour le chef de l'État, on verra ça avec Yael Gauze. Et on essaye d'en comprendre les raisons à Bruxelles. Au sommaire également ce soir, 60 000 déplacés depuis hier. L'offensive turque sur les Kurdes de Syrie. L'attentat antisémite de Halle, une honte pour l'Allemagne, dit le ministre de l'Intérieur. Nous y sommes. La polonaise Olga Tokarczuk et l'Autrichien Peter Handke, prix Nobel 2018 et 2019 de littérature. Les supporters du 15 de France coincés au Japon, sans France-Angleterre samedi, annulé pour cause de typhon. Et la suite du 18-20, toujours depuis Bayeux avec vous Fabienne.
Et oui, deuxième heure d'un 18-20 spécial à Bayeux pour le prix Bayeux-Calvados Normandie, des correspondants de guerre avec deux temps forts. Je le disais tout à l'heure, la fiancée de Ramal Rassoghi qui a une parole rare et qui sera ici avec nous pour parler de son fiancé. Nous essaierons de vous faire découvrir aussi ce film qui s'appelle Pour sa main, qui raconte le siège d'Alep comme si vous y étiez à hauteur d'enfant. C'est un film important, beaucoup d'invités, beaucoup de reportages aussi. À tout à l'heure Sébastien.
France Inter. Un écrit et 2 euros n'auront donc pas suffi. Sylvie Goulard n'a pas réussi à convaincre les députés européens. La candidate de la France à la Commission est retoquée et a une large majorité. 82 votes contre, seulement 29 pour et une abstention. L'intéressée se contente d'un tweet. Je prends acte de la décision du Parlement européen et elle remercie la future présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et Emmanuel Macron pour leur confiance. Le président qui avait choisi Sylvie Goulard et qui cache mal son agacement.
Moi, je ne comprends pas comment, quand la présidente de la Commission, qui a une discussion avec les 3 présidents de groupe, se mettent d'accord sur quelque chose, ça peut bouger comme ça. Donc j'ai besoin de comprendre. Moi, ce qui m'importe, c'est la clarté du portefeuille. Et moi, j'aime que quand les engagements sont pris, ils soient tenus. J'ai soumis 3 noms. On m'a dit, votre nom est formidable, on le prend. Et puis à la fin, on me dit, ah, finalement, on n'en veut plus. Les mêmes. Il faut qu'on m'explique.
On sent le chef de l'État particulièrement crispé, c'est au micro de Mathilde Imbert-Thi, une heure après, à la réunion du Fonds mondial contre les maladies infectieuses, où le cap d'ailleurs des 14 milliards de dollars de dons a d'ailleurs été atteint. C'est pas le sujet, bonsoir Yael Gauze.
Bonsoir Sébastien.
Le président essuie un très sérieux camouflet.
Oui, et il faut voir à l'image ce président qui agite les bras, embarrassé, incrédule. Si on mettait les sous-titres, ce serait « c'est pas moi, c'est elle, c'est Ursula la fautive ». Voilà ce que dit sa gestuelle. Sauf que Sylvie Goulard, c'était son choix, malgré les mises en garde répété de ses alliés, François Bayrou notamment. Il avait prédit ce fiasco, comme le précédent d'ailleurs, en juin, Nathalie Loiseau, l'autre pari raté, écarté de la présidence du groupe centriste Renew. Officiellement, l'Élysée renvoie la faute sur le jeu politicien du Parlement européen. Mais Macron n'a pas vu l'institution s'émanciper, s'agace un conseiller. Et quelle idiotie de ne pas avoir envoyé un candidat blanc comme neige, ajoute cette source. Quand tout le monde, ou presque, sanctionne Sylvie Goulard, au nom de l'éthique, est-ce seulement un jeu? À l'heure du Brexit et de la défiance des peuples, les eurodéputés ont préféré dire stop. Une situation sans précédent pour la France qui doit vite proposer son plan B. Alors, Michel Barnier, mais pour respecter la parité, ce serait plutôt Florence Parly, l'actuelle ministre des Armées. Ou alors, Ségolène Royal, avec un portefeuille aussi large, c'est toute la question. C'est l'influence de la France qui est en jeu, Sébastien. Emmanuel Macron, dépeint comme le nouveau leader en Europe, est furieux. Il a tort de le montrer, regrette l'un de ses proches. Ce n'est pas comme ça qu'on va avancer.
Et ça s'est vu effectivement tout à l'heure aux images, merci Yael Gauze. Claque, camouflet, arrogance, les mêmes mots reviennent dans presque tous les commentaires, de Marine Le Pen à Manon Aubry, en passant par Yannick Jadot, Raphaël Glucksmann ou Nadine Morano. Bonsoir Pierre Benazet.
Bonsoir Sébastien.
Quelles sont les raisons, Pierre, chez vous à Bruxelles, de ce rejet de la candidate française?
Bien, les raisons premières, les raisons évidentes, c'est d'abord le travail très bien payé de Sylvie Goulard pour la fondation Berggruen. C'est d'ailleurs l'argument principal de ceux qui disent avoir voté contre sa candidature pour des raisons éthiques. Mais en fait, l'affaire des emplois fictifs du MoDem a peut-être pesé plus, d'une part à cause de l'éventualité d'une mise en examen handicapante, mais surtout parce que de nombreux députés se sont offusqués de la différence d'attitude de Sylvie Goulard entre la politique nationale et la politique européenne. Une mise en examen éventuelle avec 2 conséquences diamétralement opposées, proteste-t-il, d'une part une démission du ministère de la Défense, d'autre part une acceptation de la désignation comme commissaire européenne. Ses compétences et son engagement européen ne sont pas remises en cause, affirment beaucoup de ceux qui ont voté contre Sylvie Goulard. Mais l'élimination prématurée des candidats de la Roumanie et de la Hongrie a déclenché les hostilités et donné libre cours à l'envie d'en découdre de certains députés. Les conservateurs du PPE ont voté en masse contre elle et selon certains, ce n'est peut-être pas pour déplaire à leur chef de file, Manfred Weber, puisque sa route vers la présidence de la Commission européenne a été barré, selon lui, par Emmanuel Macron, aidé du Hongrois Viktor Orban.
Pierre Benazé en direct de Bruxelles. La France doit donc maintenant proposer un autre nom pour la Commission, mais le calendrier est serré. Il faudra l'auditionner, cette personne, et la Commission prend ses fonctions le 1er novembre. Demain, à 8h20 sur Inter, la secrétaire d'État aux Affaires européennes, Amélie de Montchalin. Paris, qui a convoqué l'ambassadeur de Turquie au Quai d'Orsay, après le début de l'offensive d'Ankara contre les Kurdes dans le nord de la Syrie. Bonsoir Omar Waman.
Bonsoir Sébastien.
L'opération a déjà mis plusieurs milliers de déplacés sur les routes.
Oui, au moins 60 000 personnes ont déjà fui les bombardements dans une panique généralisée en direction des zones épargnées par les combats. Écoutez le témoignage de Chloé Troidec, 26 ans, une Française qui s'est installée dans le nord-est de la Syrie, jointe cet après-midi.
Il y a des échanges de tirs d'artillerie depuis une demi-heure. Il y a des combats très importants, donc la population civile essaye de fuir vers des villes comme Heseke ou Raqqa, ou essaye aussi de traverser la frontière pour passer au Kurdistan irakien. C'est-à-dire énormément de civils ont fui, mais il y a aussi toujours beaucoup de civils qui sont pris au piège.
Pris au piège, au milieu des combats, et le bilan est lourd. 23 combattants des forces kurdes et 15 civils tués depuis l'offensive, depuis le début de cette offensive qui a poussé à l'exode des habitants qui ne veulent pas subir le sort de la population kurde de l'enclave d'Afrin, occupée par les forces turques depuis plus d'un an. Chloé Troidec.
Depuis que l'armée turque et ses alliés, donc les groupes islamistes, occupent Afrin, c'est-à-dire qu'il y a des enlèvements, des viols, des assassinats arbitraires sur une base quotidienne très importante. Et donc les gens ont aussi une peur de tomber dans leurs mains. Et donc nous, on est là et on ne bouge pas.
Et la principale crainte de la communauté internationale, et notamment des Européens, est de voir les nombreux djihadistes étrangers prisonniers des forces kurdes profiter du chaos pour s'enfuir. Une prison où se trouvent des combattants de Daesh, parmi les plus dangereux, a été touchée par un bombardement, selon les autorités kurdes.
Omar Waman, l'Europe réclame l'arrêt de l'opération terrestre, mais le président Erdogan refuse. Il menace de laisser les 3,5 millions de réfugiés syriens partir de son pays vers l'Union, alors qu'une majorité de l'opinion publique turque est favorable à son intervention militaire, comme le montre ce reportage à Istanbul, signé Anne Andlauer.
Dans son salon de barbier, Hassan suit les nouvelles du front depuis son écran de télévision. Il soutient l'offensive que l'armée turque a engagée contre les forces kurdes. Il la soutient, dit-il, pour son objectif de long terme, créer dans le nord de la Syrie une zone de sécurité.
Il nous faut cette zone pour renvoyer les réfugiés qui vivent depuis des années dans notre pays. Mais bien sûr, nous n'y arriverons pas seuls. Les pays européens devraient nous aider.
Engin, un client, juge pour sa part que l'offensive aurait dû avoir lieu plus tôt. Il est inquiet de ses répercussions.
Il ne faut pas faire de distinction. Nous devons traiter les forces kurdes comme nous traitons les membres de Daesh. Nous avons beaucoup souffert à cause du PKK et j'en ai assez que le monde présente ces terroristes comme des enfants de cœur. Ce qui m'inquiète, c'est l'impact sur notre économie. Elle est fragile ces dernières années et avec cette opération, j'ai l'impression que les pressions internationales ne vont faire qu'augmenter. Mais nous n'avions pas le choix.
La plupart des Turcs, qu'ils apprécient ou non le président Erdogan, approuvent cette offensive puisqu'elle vise une milice liée au PKK. Cela ne veut pas dire pour autant que le soutien soit unanime. Au Parlement, le parti pro-kurde, le HDP, s'élève contre l'opération. Il accuse le chef de l'État d'être parti en guerre dans l'espoir de consolider sa base électorale. Le parquet d'Ankara a ouvert une enquête pour propagande terroriste contre plusieurs dirigeants du HDP. Anne Andlauer, Istanbul, France Inter.
300 personnes ont manifesté tout à l'heure à Marseille en soutien aux Kurdes de Syrie. Une autre manifestation est prévue samedi à Paris. C'était un prix à deux noms cette année à cause du scandale d'agression sexuelle qui a touché le mari d'une académicienne, et le Nobel de littérature va donc à une femme et un homme, la polonaise Olga Tokarczuk pour l'édition 2018 et l'autrichien Peter Handke pour cette année. Commençons par la 15e femme seulement depuis 1901 à recevoir ce prix, l'un des plus importants pour les écrivains. Olga Tokarczuk, diplômée de psychologie, écologiste, végétarienne, elle est considérée comme la plus douée des romanciers de sa génération en Pologne, où ses livres, Thomas Giraudot, sont des best-sellers.
À l'annonce de sa récompense en milieu de journée, Olga Tokarczuk a eu une pensée pour son pays et pour ses habitants à trois jours des élections législatives, décisives selon elle pour la démocratie polonaise. Les ultra-conservateurs du parti Droit et Justice au pouvoir sont largement favoris. À 57 ans, Olga Tokarczuk, la tête toujours couverte de dreadlocks, ne se considère pas comme une activiste, mais s'engage sur des sujets comme la défense des plus faibles ou la lutte contre les discours de haine. De gauche, écologiste, elle a participé la semaine dernière à une marche des fiertés LGBT, alors alors que cette communauté est ciblée par le pouvoir depuis plusieurs mois. Son engagement et ses déclarations lui valent d'être qualifiée de traître. Elle a même été menacée de mort par des internautes après avoir dénoncé l'assassinat probable de juifs par des Polonais durant la Seconde Guerre mondiale. Son engagement contre le parti au pouvoir n'a pas empêché le tout-puissant chef du parti de raconter qu'il lisait tout de même les ouvrages d'Olga Tokarczuk, et le ministre de la Culture a promis de terminer enfin un de ses romans. Varsovie, Thomas Giraudeau, France Inter.
Pour 2019, le Nobel va donc à Peter Handke, auteur de plus de 80 romans et pièces de théâtre. Il a connu le succès en 1970 avec L'angoisse du gardien de but au moment du pénalty. On lui doit aussi les scénarios de plusieurs films de Wim Wenders, dont Les ailes du désir. Il se dit étonné ce soir, parle d'une décision très courageuse et il reconnaît la filiation avec Kafka, Beckett ou Faulkner, auxquels on l'a souvent comparé.
Je suis un petit-fils de tous ces gens comme William Faulkner. Jamais j'avais pensé, quand j'ai commencé à lire Faulkner et Tolstoy, je me suis dit, ça c'est le grand, ça c'est l'écrivain. Je ne pouvais pas du tout m'imaginer d'entrer un tout petit peu dans cette famille. Mais c'est quand même arrivé, un tout petit peu. Chaque époque a une autre littérature. Il n'y a pas de progrès dans la littérature, mais ce que les grands ont fait, on n'a pas plus besoin de faire. Ce que Balzac a fait, c'est pas la peine d'écrire de la comédie humaine. Moi, je suis un type épique. On cherche une autre épopée aujourd'hui. C'est moi, mon problème. Un beau problème, non ? Je trouve.
Voilà, Peter Handke chez lui, en région parisienne, cet après-midi, au micro d'Ilan Amor-Youssef. Vous trouverez sur franceinter.fr les réponses à cette question. Où sont les femmes dans l'histoire des Nobel ? Angela Merkel promet la tolérance zéro face à la haine après l'attentat antisémite qui a fait 2 morts hier à Halle. Le président allemand et le ministre de l'Intérieur sont venus aux côtés de la communauté juive sur place à la synagogue visée par le tueur. « Nous devons protéger les juifs en Allemagne », a dit Frank-Walter Steinmeier. Alors Horst Seehofer, le ministre de l'Intérieur, parle lui de honte pour le pays.
Cet attentat brutal est une honte pour le pays tout entier. Avec notre histoire, une telle chose ne doit pas arriver en Allemagne. Ce gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les Juifs de notre pays puissent vivre sans menaces, sans peur, plus jamais.
Le tueur, un homme de 27 ans, crâne rasé, veste militaire, a filmé et diffusé son attaque sur Internet. La vidéo compte des milliers de vues, tout comme le manifeste antisémite qu'il avait publié il y a une semaine sur un forum. Bonsoir Ludovic Piétenu.
Bonsoir Sébastien.
Vous êtes toujours à Halle, Ludovic. Le procureur fédéral assure lui qu'il voulait commettre un massacre, ce sont les mots du procureur.
Oui, et du coup, il devrait poursuivre ce néo-nazi de 27 ans pour crimes antisémites, actes de terrorisme et encore plusieurs autres motifs. La liste va s'allonger dans les prochains jours. Le procureur a décrit un homme, je cite, « marqué par un antisémitisme effrayant et une haine de l'étranger ». De son côté, la police a retrouvé aujourd'hui 4 kilos d'explosifs dans la première voiture utilisée par l'assaillant, ce qui vient donner encore plus de légitimité à l'une des questions que pose depuis ce matin la communauté juifs d'Allemagne. Comment se fait-il que cet homme a pu réunir autant d'armes, fréquenter les milieux nazis, en passant sous les radars du renseignement ? Ou bien encore, pourquoi la synagogue de Halle n'était-elle pas surveillée en permanence par la police un jour aussi important que la fête de Yom Kippour ? Au-delà de ces questions, Sébastien, ce qui s'est passé hier ne devait pas se produire, pas en Allemagne, estime le numéro 1 du congrès juif mondial, Maram Stern, qui s'est immédiatement rendu dans cette ville de Saxe-Anhalt pour soutenir les membres de sa communauté.
Nous sommes au 75e anniversaire de la libération de Auschwitz. Mes parents qui étaient en Allemagne étaient persuadés que ça n'allait plus jamais se passer, se représenter. Puis d'un coup on voit au fur et à mesure que ça devient chic, ça devient salon fait, comme on dit en allemand, d'être antisémite. Il y a quelque chose qui était caché qui revient à la surface.
Ce soir, le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, que l'on a entendu un peu plus tôt, s'est engagé à veiller à la sécurité de la communauté juive. Il a promis de chercher à punir plus sévèrement les actes antisémites. Ce discours volontariste, qui repose essentiellement sur des promesses, a reçu, il faut le dire, un accueil plutôt froid des responsables des Juifs d'Allemagne.
Ludovic Piétenu, merci, en direct de Halle. Autre dossier cette fois en France, le procès des femmes djihadistes jugées pour la tentative d'attentat avec des bonbonnes de gaz près de Notre-Dame, c'était il y a 3 ans. Bonsoir Charlotte Piret.
Bonsoir.
Les avocats généraux, Charlotte, demandent 25 et 30 ans de prison contre les deux principales accusées.
Elles encourent toutes deux la peine maximale et dans leur réquisitoire de voix, les avocats généraux ont insisté. Si les bonbonnes de gaz avaient explosé, il serait naturel de réclamer la réclusion à perpétuité. Si la question de la sanction se pose, c'est bien uniquement parce que l'action n'a pas été à son terme, mais du seul fait du hasard. Pendant de longues heures, les magistrats sont revenus sur les préparatifs et le déroulé de ces attaques menées par des femmes dont l'État islamique venait de reconnaître la légitimité à combattre. Ornella Gilligman, tombée amoureuse d'un faux profil djihadiste. Mais l'amour n'est pas une clause exonératoire. 25 ans de réclusion sont réclamés contre elle. Inès Madani, 19 ans quand elle met le feu à cette voiture piégée. Le seul élément qui m'a poussée à ne pas réclamer la perpétuité, c'est son âge. Je ne peux pas ne pas espérer en l'être humain. Et cette phrase résume à elle seule la délicate posture des magistrats dans ce premier réquisitoire du parquet national antiterroriste aux assises. Faut-il croire au désengagement radical que revendiquent aujourd'hui ces jeunes femmes ou craindre leur dangerosité? Il faut faire preuve de beaucoup de modestie pour suivre les magistrats. Nous ne pouvons pas prédire l'avenir et une récidive en matière terroriste aujourd'hui, c'est commettre un attentat.
Charlotte Piret en direct de la cour d'assises de Paris. L'usine a ouvert en 1971, mais Michelin à La Roche-sur-Yon s'est terminé. Le site qui fabrique des pneus de poids lourds fermera ses portes à la fin de l'année prochaine. La direction du numéro 2 mondial des pneumatiques l'a annoncé ce matin aux 619 salariés qui se verront proposer d'autres postes au sein de l'entreprise en France. Les raisons: marché difficile, concurrence du bas coût asiatique. Jean-Paul Chiocchetti est le directeur de Michelin France. Il est au micro de Raphaël Ebenstein.
Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas d'autre alternative parce qu'en Europe, chez Michelin, on est en énorme surcapacité. Et aujourd'hui, on pense, même si c'est très triste, on pense que pour les salariés européens qui, depuis maintenant quelques mois, voient tous les jours des volumes plus faibles que la journée d'avant, des chômages partiels poindre, une inquiétude, je veux dire, aujourd'hui, le groupe Michelin ne pouvait pas faire autrement. Pour moi et pour le groupe Michelin, le projet aujourd'hui, c'est l'accompagnement de nos salariés pour éviter tout départ contraint. Nous allons proposer à tous les salariés plusieurs emplois sur nos 14 sites. Ça veut dire qu'au départ, nous avons de quoi proposer plusieurs solutions à compétences égales, à classification égale, à tous les salariés de site dans nos 14 sites français.
Des perquisitions aujourd'hui dans les locaux administratifs de l'usine Lubrizol à Rouen et de la société voisine Normandie Logistique qui juge quasi impossible, elle, que le feu soit parti de son usine. Il est sorti de prison hier et il repart en campagne. Nabil Karoui, arrivé deuxième au premier tour de la présidentielle en Tunisie. Le magnat des médias qui doit être opposé à l'universitaire Kaïs Saïeb au second tour dimanche, mais qui demande un report au micro de Maureen Mercier à Tunis.
Nous avons demandé le report parce qu'on trouve que c'est plus logique et plus sain. Parce qu'imaginez, s'il n'y a pas de report et que nous contestons les résultats à la fin, ce serait peut-être plus sain et mieux pour la Tunisie. La démocratie, c'est qu'il y ait une campagne, que les gens défendent leurs idées et nous nous présentons avec beaucoup d'espoir. Et je pense que nous allons gagner. Parce que cette histoire, elle ne peut pas se terminer comme ça, on est bien d'accord. Il faudrait une happy end.
Les fans de rugby ne cachent pas leur déception. Les deux matchs programmés samedi près de Tokyo pour la Coupe du Monde au Japon sont annulés parce que menacés par le typhon Agibis qui approche de l'archipel. La décision est tombée ce midi. Là-bas, All Black Italie et Angleterre-France n'auront pas lieu. Josiane est donc déçue et inquiète, elle qui est venue de Chambéry pour voir trois matchs et qui se retrouve confinée dans son hôtel à Tokyo. Elle est au téléphone avec Annabelle Galotti.
C'est la consternation chez les supporters parce qu'on est venu essentiellement pour France-Angleterre. C'était le sommet de notre séjour. Bien sûr, on a fait deux matchs précédemment, mais rien à voir avec France-Angleterre. Donc, oui, énorme déception. Les autorités japonaises sont assez alarmistes, donc il y a en plus une tension qui est palpable. Il faut faire des provisions demain pour vivre dans nos chambres d'hôtel sans sortir, pour se nourrir, pour boire. Et puis, bien entendu, ne pas sortir du tout samedi toute la journée.
Le 15 de France est donc au repos pour 10 jours jusqu'à son quart de finale qui devrait l'opposer au Pays de Galles. Japon-Écosse sera peut-être annulé aussi. Les Écossais seraient alors éliminés sur tapis vert. Ils font pression sur l'organisateur pour jouer. Et puis on a appris la mort de l'actrice Marie-Josée Natt qui avait tourné avec Henri-Georges Clouzot, avec Gérard Houry ou Claude Antolara au Temps Lara et qui avait eu le prix d'interprétation à Cannes. C'était en 74 pour son rôle dans Les violons du bal de Michel Drache. Elle avait 79 ans. Le temps.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Bonsoir Élodie Calac.
Bonsoir à tous.
Il va faire beau demain.
Oui, sur les régions du sud jusqu'au Berry, à la Bourgogne-Franche-Comté, à l'Alsace, le soleil sera bien installé dès le matin. Juste quelques grisailles ou brouillards vite oubliés vers le centre, le Val de Saône, les vallées du Massif central ou la Côte d'Azur. Le littoral du Languedoc-Roussillon, lui, verra son ciel s'assombrir quand même l'après-midi avec l'arrivée de nuages poussés par le vent marin. Ce sont nos fameuses entrées maritimes que vous aimez tant. Et puis le vent d'autant soufflera jusqu'à 70 km/h en région toulousaine. Plus au nord, une matinée grise. On retrouvera quand même de belles éclaircies l'après-midi, mais attention sur les côtes de la Manche. Là, ça restera encombré avec quelques gouttes et du vent jusqu'à 80 km/h.
Et les températures sont en hausse.
Et oui, 18 degrés attendus à Lille l'après-midi, 20 degrés à Paris, Rennes et Mulhouse, 24 à Lyon, à Marseille, 28 à Bordeaux et on ira jusqu'à 29 degrés à Tarbes ou à Agen, un petit air d'été.
Élodie Calac, merci beaucoup.